Vous êtes bien sur Radio Rôliste et nous allons parler de la fin en jeu de rôle. Ici Lamson, en direct d'un coin calme, particulièrement calme, du festival Les Intergalactiques. Et aujourd'hui, nous allons parler de la fin, d'une histoire qui se termine, et peut-être de la fin d'un monde. Pour en parler avec moi, j'ai les deux plus grandes tragédiennes depuis que Sophocle a arrêté le jeu de rôle. J'ai nommé d'une part Vivi Féasson, autrice en particulier de Libreté.
Bonjour.
Et d'autre part Melville, dont le jeu Notre Crépuscule, à paraître chez Dystopia, est actuellement en financement participatif.
Alors, précommande, bonsoir, c'est pas en financement participatif, c'est un financement pas participatif, mais vous avez le droit de participer quand même.
Très bien, merci pour la précision. Et donc, tel des parcs, nous allons nous intéresser à comment filer et tisser un jeu de rôle, sans jamais oublier qu'il faudra le couper un jour. Nous allons aussi nous passer notre unique micro en cette circonstance d'enregistrement particulière. Commençons par Vivi, que je suis très heureux de recevoir pour la première fois dans ces micros. J'ai parlé de Libreté parce que c'est un jeu tragique qui est écrit au passé, par le survivant d'une enclave de sécurité relative dans un monde particulièrement mortel. Et on sait que cette enclave a disparu, qu'elle va disparaître au cours de la campagne, à cause de nous ou malgré nous. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et de comment tu en es venu à écrire ce genre de jeu tragique ?
Oh, vaste question. Bah, il y a plusieurs éléments, quoi. On va dire, si on enlève le côté tragique, le fait d'avoir une personne qui parle de tout ça, il me semble que c'était quand même pas mal influencé par la lecture de Sens, je crois, à l'époque, et la pratique de La Cellule, donc le podcast de Romaric Briand, où il y avait vraiment ce côté, le manuel intégré à un univers qui serait, entre guillemets, réel. Et voilà, où finalement le livre de jeu devient une espèce de témoignage d'une réalité, et en brouillant un petit peu les pistes. Alors je sais, c'est pas vraiment pourtant exactement la proposition de Libreté, je suis pas là pour vous faire questionner votre sens de la réalité, c'était plus un moyen, on va dire, bien commode d'embarquer les gens dans un manuel de jeu qui est... J'avais pas envie d'être trop aride, j'ai développé ça par d'autres méthodes ensuite. Mais voilà, il y avait cet aspect-là. Par contre, pour ce qui est le sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire celui de la fin, pour plutôt revenir là-dessus, il y avait vraiment... Je pense que ça part d'un questionnement un peu ancien qui est celui de pas mal de meneurs et de meneuses de jeux traditionnels, qui est que souvent, il y a des éléments dramatiques ou narratifs qu'on accepte très très facilement dans toutes les modes de fiction, on va dire, déjà établis, que ce soit les romans ou les films ou quoi que ce soit, qui est que bah des fois, les personnages se font avoir, perdent, sont capturés, des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est souvent, qui a été souvent, en tout cas à une époque, peu accepté dans le jeu de rôle traditionnel, parce que ce qu'on met surtout entre les mains des personnes, c'est la possibilité de s'en sortir et une espèce d'empouvoirment et de promesse de toute puissance, quoi. Et souvent, ces mécaniques-là, les gens n'étaient pas vraiment d'accord, alors on commençait à inventer des trucs. Et quelque part, je trouvais ça intéressant de promettre dès le départ l'échec et de voir, du coup, de se soucier non plus de la réussite, mais de qu'est-ce qui se passe entre le début de la partie et la fin, et comment on peut finalement faire des variantes là-dessus, quoi.
Et bah du coup, toi, Melville, alors toi, c'est loin d'être la première fois qu'on t'entend ici. Mais peut-être que tu pourrais nous dire comment toi, t'en es venu à écrire des jeux tragiques et lesquels ?
Moi, il y a la question du deuil qui traverse ma ludographie. Peut-être depuis le début, hein. Le premier jeu que j'ai publié en auto-édition, c'est Sur les frontières, où il y a déjà quand même beaucoup de deuil, beaucoup d'abandon, et puis on est à la fin du monde, enfin on est au bout du monde, pas à la fin temporelle, mais à la fin géographique pour le coup. Et il y a déjà du tragique qui est assumé tel quel. Après, au-delà du tragique, la question de la fin, du deuil, de la mortalité, de ce que ça fait aux personnes qui restent, c'est un truc que j'ai pratiqué sur plusieurs jeux. Le premier, c'était sur un projet qu'on avait fait de format court avec un jeu au titre un petit peu long, qui est un petit jeu de rôle grandeur nature qui s'appelle « Comme l'hiver doit être long pour ceux qui n'ont pas de souvenirs chaleureux ». Et ça parle de deuil d'une personne pour qui ça va finir, mais ça pose aussi beaucoup la question de ce qui reste et de comment ils vivent ça. C'est des émotions vers lesquelles je suis retourné quand j'ai écrit ce souvenir de novembre dans la quadrilogie des couleurs de l'amitié. J'y reviens avec un angle assez différent, je pense, dans notre crépuscule, mais en tout cas, la question qu'est-ce qu'on fait du temps qui nous est imparti et l'enjeu de se confronter à notre propre finitude. C'est un truc qui me traverse à titre personnel et qui du coup je pense infuse aussi ce que j'écris.
Et du coup, comme on est parti pour parler un peu de notre crépuscule, c'est quel genre d'histoires qui sont générées par ce jeu et comment est-ce que le système les soutient ?
Dans notre crépuscule, on fait de l'urban fantasy. On joue des membres du monde secret, du monde invisible, du monde magique, qui existent un petit peu en parallèle ou en quinconce de notre réalité contemporaine à nous. Un univers merveilleux, caché dans les ombres du coin de la rue, dans lequel on trouve des lutins, des elfes, lucanes, des créatures étranges et surprenantes et merveilleuses. Et puis nous, on joue des gens qui ont un statut un peu particulier, qui sont les sorcières, qui sont les gardiennes du monde magique, qui sont c'est leurs élus, quoi. C'est leurs élites aux créatures du monde magique. Et leur fonction est de protéger le monde magique. Et la prémisse du jeu dit que la magie se meurt et qu'il n'y aura pas de remède. C'est comme ça.
On va pas sauver le monde.
Non, on va pas sauver le monde. Et du coup, les créatures magiques potentiellement vont disparaître. Mécaniquement, il y a assez peu de choses. Alors, c'est un jeu où il n'y a pas trop de jauges, de points de vie, de trucs comme ça. Les sorcières sont des personnages puissants qui peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent en termes d'action. En tout cas, quand on tente une action, on réussit ce qu'on essaye de faire. Mais par contre, il y a des modalités de tirage aléatoire qui font que on doit, parmi une grosse poignée d'options, en gros, indiquer ce qui ne nous arrivera pas comme contre-coup. Donc, est-ce qu'on arrivera à faire ce qu'on veut faire dans les temps ? Est-ce qu'on arrivera ? Est-ce qu'il y aura des conséquences pour nous ? Est-ce qu'il y aura des conséquences pour nos proches ? Est-ce qu'il y aura des avantages fournis à nos adversaires ? Est-ce que on se fera remarquer plus ou moins ? Et en fait, dedans, on doit choisir et on doit renoncer parce qu'on a rarement suffisamment de ressources pour se prémunir de toutes les conséquences, donc on doit renoncer à se prémunir d'un certain nombre de conséquences. Il y a plein de petits endroits comme ça dans le jeu où on choisit dans une liste et on n'a pas l'option de tout choisir. Et du coup, faut choisir ce à quoi on renonce. Et je crois que c'est le fond du propos du jeu aussi, c'est-à-dire que moi je suis pas là pour mettre du sel dans les plaies, mais par contre de poser la question de on a un temps limité. On pourra pas tout faire, donc qu'est-ce qu'on choisit ? Qu'est-ce qu'on garde ? Qu'est-ce qu'on garde pas ? Voilà comment c'est porté mécaniquement. S'il y a un endroit où c'est porté mécaniquement, ça se retrouve partout. Cette idée de... Il y a un grand buffet, mais on a une toute petite assiette, quoi.
Super. Et toi, Vivi, dans Libreté, au niveau des mécaniques, on est plutôt dans une mécanique où on est incité quelque part à aller trop loin, à faire des réussites excessives. Ça amène quoi, du coup, dans le jeu ? Et pourquoi est-ce que tu voulais ce genre de mécanique-là ?
On peut se poser la question, est-ce que ça va dans la continuité de ce qu'on disait de la fin ? Quelque part, si on la met en rapport avec notre thème, plutôt qu'isolé, il y a quand même le côté un peu absurde de ces gens qui veulent s'organiser, mais en ayant des enjeux de pouvoir, qui ont des émotions très fortes, se font du mal, se battent pour des trucs, et alors qu'au final la communauté qu'ils ont créée, peu importe, va s'effondrer quoi de toute manière sous une force beaucoup plus puissante que tous les petits problèmes qu'ils peuvent avoir. Est-ce que c'est pleinement porté par le système? Est-ce que c'est une mise en tension? Ça, j'aurais du mal à le juger en tant que personne qui est à l'origine quoi. C'est pas, tout n'est pas planifié de cette façon. C'est quasiment comme des axes qui ont été posés finalement sans forcément faire le lien immédiatement entre eux. Il y a vraiment quand même une forme de déconnexion créée par ces deux piliers, un qui est très mécanique puisque finalement l'histoire des réussites excessives, de la bille noire et tout, c'est quand même le cœur du jeu malgré tout. Et il y a plein de trucs liés à ça. Et l'autre qui est purement, je sais pas, c'est une espèce de décret fait au début du jeu qui n'est pas lié à... Je me souviens plus exactement comment ça a été créé. J'ai sans doute par moment pensé à l'idée peut-être de faire un chronomètre ou un machin, et puis finalement. Non, c'est juste, après tout, c'est un jeu avec une meneuse de jeu, et donc elle peut décider à un moment que c'est le bon moment d'y mettre un terme, et voilà, un peu comme quand on finit une campagne, on dit là je crois qu'on est arrivé à peu près au bout, et c'est vrai que les mécaniques de propulsées par l'apocalypse en général et Libreté s'inscrit pleinement dedans, elles ont tendance aussi à créer ces espèces de cycles de drames qui s'auto-entretiennent et qui viennent vers de plus en plus de drames, vers une forme d'apocalypse, quoi. Donc quelque part, il y a quand même aussi un mouvement qui est créé par cette mécanique de jeu qui, du coup, va de toute façon aller vers de plus en plus de dramas, d'explosions, de violences, de trucs comme ça. Et puis, bon, malgré tout, on est un peu habitué à faire des fictions qui vont dans ce sens-là aussi, d'augmenter les enjeux à chaque fois. Voilà, ça c'est, en tout cas, c'est comme ça que ça a été un peu créé à l'époque, quoi. Et sans vouloir forcément rediriger vers autre chose, mais je me suis souvenu, alors bizarrement j'avais complètement oublié, et je m'en souviens en entendant Melville parler du coup de notre crépuscule, et j'avais commencé à avoir un projet que j'ai jamais mené à bout, qui a donné autre chose de très différent, mais où on jouait des espèces de sirènes de l'averse dans un futur hypothétique, et elles se réveillaient, et l'humanité avait été bouffée intégralement, elles étaient toutes là, toutes des sirènes de toutes formes, de toutes identité, sauf que du coup il y avait plus d'humains et donc elles pouvaient plus se nourrir, donc elles allaient mourir, et du coup elles partaient vers une espèce de grand voyage où elles allaient de communauté en communauté de sirènes, du coup, qui avaient essayé de créer des nouveaux modes d'existence en attendant la fin. Et l'idée des joueurs, pour les joueurs, c'était de ok, est-ce que vous installez là, est-ce que finalement vous continuez votre route, est-ce qu'à un moment, où est-ce que vous avez envie de finir le monde. Je crois que je l'avais pas mis en zen parce que juste à un moment je m'étais dit quelque part, comme le mode campagne du jeu de rôle en général a tendance à nous dire on est tous ensemble jusqu'au bout, et donc quelque part si un joueur choisit telle communauté, il abandonne la campagne. Alors après, peut-être qu'en fait faut juste se détacher de cette image qu'on a et se dire les joueurs vont partir de la campagne les uns après les autres jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que un MJ et une joueuse ou quelque chose comme ça, et que les deux terminent ainsi soit jusqu'au bout, il y a une espèce de maelstrom à la fin, complètement juste l'œil du cyclone, quoi, où il n'y a plus rien, soit juste s'installe dans une dernière communauté, je sais pas. Il y avait eu ce projet à un moment, qui se détache un petit peu aussi de ce truc de où on avait une réflexion récemment avec Eugénie qui était où on voulait du story now, du drama, plus de drama très vite, on voulait maximiser ça, quoi. Il y avait vraiment cette démarche pendant longtemps, et que quelque part on avait commencé un petit peu peut-être à vouloir freiner un peu là-dessus et trouver d'autres modes d'expression peut-être un peu apaisés, quoi, quelque part.
Je retrouve des réflexions que j'ai entendues dans la bouche de pas mal de personnes, je vais pas citer tout le monde, mais de comment est-ce qu'on termine aussi la fin dans le sens organisation de la fin d'une partie ou d'une campagne de jeu de rôle. Il y a des jeux de rôle focalisés qui maintenant arrivent très bien avec une structure narrative donnée à ce qu'on arrive à la fin. Typiquement, au bout de 2h30, c'est fini, la structure narrative nous amène à la fin d'une histoire et on s'arrête là. Mais dans beaucoup d'autres, et en particulier dans les PBTA dont tu parlais tout à l'heure, Alors oui, les enjeux montent, mais en fait, même quand tout le monde est épuisé et a envie d'arrêter, les enjeux continuent à monter du fait du système, et du coup, comment est-ce qu'on termine? À quel moment on arrête la machine, ou en tout cas on la met en mode frein plutôt qu'en mode accélération pour arriver à quelque chose de satisfaisant? J'ai aussi l'impression qu'il y a beaucoup de campagnes de PBTA qui s'arrêtent, enfin qui explosent en fait. Enfin, on s'arrête sans vraiment de fin satisfaisante. C'est juste que le soir, on se dit bon bah la semaine prochaine. En fait, il y a pas de semaine prochaine et on rejoue pas quoi. On va pas forcément jusqu'à la fin. Et c'est encore une autre problématique dans les jeux de rôle plus classiques où la campagne qui a duré 170 séances, à quel moment est-ce qu'on l'arrête? Enfin, à quel moment est-ce qu'on décide que c'est fini et que est-ce qu'on fait une fin de saison? Est-ce qu'on fait une fin de quoi que ce soit? Enfin, tout ce genre de réflexion-là. Est-ce que c'est des choses auxquelles vous pensez en termes de game design? Quand vous faites un jeu, c'est plutôt, si on avait un jeu focalisé, on va avoir une telle structure narrative. Ça, c'est un jeu que je sais pas combien de séances c'est, mais à un moment donné, la fin va un peu tomber toute seule. Mais peut-être que je pourrais faire telle ou telle chose pour que ça arrive. Est-ce que c'est des réflexions que vous avez dans vos constructions de jeu?
Il y a plusieurs jeux où j'ai mis des indications sur comment ça pouvait se gérer, parce qu'effectivement le jeu n'est pas par défaut. Je pense par exemple à Bois Dormant, où dans les conseils je donne des choses là-dessus sur effectivement comment on termine, parce que dans Bois Dormant j'essaie de donner vraiment beaucoup de conseils de prise en main qui sont valables pour ce jeu-là, mais j'ose espérer qu'ils sont nourriciers de façon générale. Moi, je crois pas mal au CDD et au fait de se dire on va jouer tant de séances, on va jouer X séances et après ce sera fini. Je trouve que dans des jeux où effectivement on a des machines à drama efficaces, ça aide tout le monde d'avoir de la visibilité sur où on en est, dans la temporalité qui nous a été impartie, en sachant qu'elle est limitée. De la même façon que, si je fais le parallèle avec une série télé, je crois qu'on gagne dans une série à dire ça va faire tant de saisons et ce sera fini après, plutôt que d'avancer au jour le jour en fonction de s'il y a encore du public ou pas. Et on a un peu ce souci-là, effectivement, en jeu de rôle. J'ai abordé les choses un peu différemment dans notre crépuscule, parce que pour le coup, il y a en gros, il y a un aléa qui détermine. Il y a plein de propositions de pistes d'histoire dedans, et on peut choisir. Moi, je pense que c'est ce que je recommanderais quand même, d'utiliser le système de tirage aléatoire du jeu pour déterminer la qualité d'histoire, si elles sont plus ou moins douces, plus ou moins dures, et au plus dur et au plus difficile, c'est la fin. C'est la fin avec plusieurs options proposées. Donc, il y a quand même un choix là-dedans de la part de la meneuse, parce que c'est un jeu avec meneur et des joueuses. Mais en tout cas, il y a la possibilité effectivement de faire un tirage et de dire « Ah, bah c'est fini !» Parce que c'est aussi la proposition du jeu de cette fin. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'elle arrive, mais elle va arriver, mais c'est abrupt. Et il y a le risque en même temps qu'on ne tire jamais ce truc et que tout le monde s'essouffle avant en disant bah, « à la fin, on attend, mais elle ne vient pas. » quoi. Et cette espèce d'entre-deux incertain, enfin pour le coup, cette incertitude, elle m'intéresse. De quand est-ce que... Ça peut être demain, ça peut être dans 6 mois, on ne sait pas trop. Et ça a des implications sur la gestion du temps. Mais avec la certitude que ça va arriver à un moment, enfin, à un moment ou à un autre. Et c'est en réalité une expérience assez commune, parce que c'est vrai pour tout le monde. Ça va tous nous arriver à un moment ou à un autre, n'en déplaise aux transhumanistes. Et on sait pas exactement quand. Et c'est même une des grandes terreurs métaphysiques de beaucoup de gens. Donc, ouais, moi, je, en faire un outil narratif, je trouve que ça a du sens. Mais ouais, si on est sur des grosses machines à drama, en tout cas, se donner une échéance en disant « nous, on joue X fois » ou « on joue dans le temps de la fiction, genre sur une saison », mais dans ce cas-là, il faut se donner aussi des choses claires sur à quelle vitesse passe le temps de la fiction dans notre temps de jeu, mais en tout cas, se donner des bornes pour éviter les accidents, quoi. Ouais, je pense que c'est bien, parce que sinon, effectivement... Enfin, on attend que ça termine en autre boudin, c'est toujours un peu décevant.
Oui, ben en tant que terrorisé métaphysique, effectivement, je peux qu'abonder dans ce sens-là. Mais oui, et puis ça c'est entièrement vrai. J'ai l'impression que mes parties de mégadrama se sont grandement améliorées à partir du moment où on a fixé effectivement, on dit 5 séances, et voire même j'ai eu une expérience où ça a pour moi sauvé une campagne. Où je galérais en tant que meneuse à mettre des trucs, je savais pas trop où ça allait et tout, et à un moment on a dit ben les deux prochaines séances c'est les dernières. Je me suis mis un gros coup de, peut-être pas de pression, mais un coup de boost quoi, et ça a été une très très chouette fin de campagne, là où je voyais, enfin, je savais plus où ça partait, les gens s'engueulaient, enfin voilà, ça partait dans tous les sens. Et donc ça, en termes de fictionnel, c'était quand même vraiment appréciable aussi de dire bah là on peut se permettre de monter les enjeux. Là où par exemple j'ai une campagne de Monster Hearts où on est plus lié au système lui-même plutôt qu'à notre décision, et parfois je sens plus le côté, j'ai l'impression que mon personnage a tellement morflé que en fait j'aurais presque envie d'en partir sur une, enfin voilà, de le tuer en un sens lui-même, ce qui est pas forcément ce que j'avais envie de faire, voilà. Donc il y a effectivement cette question, mais du coup moi cette question là en fait elle me semble toucher à quelque chose d'assez vaste finalement, parce que comme je disais voilà, j'ai quand même pas mal travaillé la peur de la mort sur moi-même, voilà, depuis je pense que ça date au moins de l'âge de 7-8 ans, donc voilà, j'ai pas eu tout à fait les bonnes réponses de mes parents, mais est-ce qu'il y a des bonnes réponses là-dessus, je ne sais pas. Mais on en discutait un petit peu de la nostalgie, et Melville parlait des séries, et il y a vraiment ce côté, notamment chez les geeks et la fantasy, il y a quand même ce côté de refus de la fin, refus de la mort. Les séries sont interminables, les séries de livres, il y en a 17, 18, 20, 22, enfin voilà, bon évidemment il y a l'aspect capitaliste derrière qui en profite, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi cette envie que cet univers ne meure jamais, que nos héros reviennent encore et encore pour une nouvelle aventure, Star Wars, ils reviennent 5 millions de fois, etc. Il y a toujours ce besoin de que ça se termine jamais en fait. Il y a vraiment ce truc-là. Et les campagnes de Donjons et Dragons d'antan, ou de jeux de rôle en général, interminables, c'est aussi un petit peu ça. Si on veut toujours une deuxième saison, un troisième truc. Et on sent bien que les personnages, ils deviennent de plus en plus improbables, impossibles, qu'ils ont refait 50 fois les mêmes choses, ils ont changé 10 000 fois. Et je pense qu'il y a un moment où il y a une incapacité à regarder la fin du coup, et à l'étudier, et à regarder comment, et juste à accepter que tel personnage, ouais, moi aussi j'ai envie qu'il revienne, mais le fait qu'il ne revienne pas, c'est ce qui donne aussi du sens à l'amour que je lui ai porté et à ce qu'il m'a apporté, etc. Pour moi, c'est un truc très important de c'est travailler la frustration et le deuil quoi, quelque part, y compris sur soit un personnage fictionnel qu'on a apprécié dans une fiction statique, on va dire, ou un personnage qu'on a créé nous-mêmes. Alors, je dois avouer que cette année, j'ai mis à mon mur deux dessins de personnages qu'on m'avait fait il y a 10-15 ans. Et en fait, je trouve ça chouette, parce que, en un sens, c'est un peu comme c'est à la fois moi-même, et en même temps des personnes avec qui j'ai eu une relation, en un sens, puisque c'est pas tout à fait moi. Un peu comme des espèces d'histoires d'amour, quoi, comme une photo d'un souvenir. Et c'est ok, c'est fini. Jamais il faudrait que je les rejoue, ce serait une absurdité et une trahison. Mais je les accepte comme un témoignage de quelque chose, quoi, d'une facette ou d'une époque. Et c'est le fait d'avoir réussi à accepter une fin. Et voilà, et ils sont liés à plein de trucs. Et typiquement, deux de ces personnages, ils sont aussi liés à la mort d'un ami m'avait fait jouer à tel jeu, ou qui avait, non, à l'époque, pour cela, il avait joué avec moi, quoi, et c'est aussi un lien à ça, quelque part. Et donc, il y a un deuil du monde réel aussi qui s'associe au deuil du personnage et d'une époque, et en même temps d'une conservation, quand même, d'un élément de cette époque-là, quoi, de dire, ouais, ça n'a pas été, pour moi, une campagne de jeu de rôle, et donc les relations qu'on a avec les personnes, y compris à travers les personnages, c'est aussi une part de ce qu'on est aujourd'hui, et comment on l'a digéré, et comment on a évolué.
Je sais pas comment je vais rebondir après ça. Peut-être que je peux rebondir au moins temporairement en citant le podcast perso qui avait été fait par Ours à un moment donné, où justement il demandait à des rôlistes de parler de leur personnage qui semble être la pire idée du monde. Et en fait, c'était, mais en gros, qu'est-ce que représentait ce personnage pour vous par rapport à votre vie? Et c'est souvent des personnages que les gens ne jouaient plus, d'ailleurs ne jouaient plus depuis des années, mais dont ils pouvaient encore parler et dire, bah voilà, à cette époque-là, ce personnage m'a permis d'explorer ça ou ça. Et effectivement, maintenant, c'est fini, mais on peut en parler, quoi.
Quelque part par là. Et bon, on arrive à peu près dans la zone. C'est deux séances de la fin, quoi. Et on se dit, bon, voilà. On est arrivé dans cette zone-là, on se donne deux séances pour finir.
Mais c'est une confrontation, enfin, moi je pense que si on a du mal avec la fin, c'est parce que c'est une confrontation au deuil. Et c'est vrai pour l'esprit, c'est vrai pour tout un tas d'espèces d'univers imaginaire. C'est encore, alors le capitalisme, je ne m'aide pas, parce que tant qu'il y a des pognons à
est-ce que ouais, c'est pas le format sériel qui fait que ça s'arrête
mais
jamais
en fait, il y a plein de séries qui sont arrêtées où les gens auraient des pognons à faire, il y a un public pour, mais tu vois, parce que les gens sont là, non, mais en fait, on a trop aimé, mais le jour-là, un format sériel en campagne.
Je voudrais revenir un petit peu sur la tragédie. On en a parlé sans vraiment donner de définition. Mais la tragédie, il y a la notion de destin qui est associée. Le fait qu'on... Enfin, la tragédie au théâtre, hein, c'est qu'on voit des personnages qui se débattent dans un destin qui est déjà écrit à l'avance. Mais pour autant, même si la fin... Certains éléments de la fin sont écrits, le scénario par lequel cette fin va arriver n'a pas l'air de l'être. Même si on converge, même s'il y a des choses qui nous y amènent. Alors on peut voir un parallèle avec un MJ Tradi qui a déjà décidé de la scène finale de son scénario et non, vous en bougerez pas. Mais j'ai quand même l'impression que la tragédie est devenue beaucoup plus facile à jouer en jeu de rôle à partir du moment où les joueuses sont devenues co-autrices de la fiction, où il y a eu beaucoup plus de partage de la narration. J'ai l'impression que ça se relie aussi à ce que tu disais tout à l'heure, Melville, sur le fait que quand tout le monde sait quand est-ce que ça va s'arrêter, on peut chacun et chacune prendre les commandes de notre personnage, de la fiction, des manettes qu'on a nous pour la bouger, de façon à y aller ensemble, en convergeant vers quelque chose dans le temps qui nous est imparti en jeu, quoi. Mais pour autant, les deux jeux dont vous parlez sont des jeux avec maître de jeu. Comment est-ce que vous réconciliez ça, le fait d'avoir... est-ce que c'est des maîtres de jeu qui vont amener ce destin? Est-ce que c'est autre chose qui l'amène? Comment est-ce que les choses sont partagées?
Alors, en premier lieu, j'espère que... J'aimerais que dans tous les jeux de rôle, les joueuses, elles soient co-autrices de la fiction. Sinon, c'est quand même vraiment très emmerdant. Je vous le souhaite. En fait. Si vous faites du jeu de rôle, je vous souhaite d'être co-autrice de votre fiction. Sinon, changez de MJ. Et après, pour le reste, ce qu'il y a en commun entre Libreté et Bois Dormant, pour le coup, c'est que c'est pas le MJ qui a son scénar et qui dit, ou en l'occurrence, qui ne dit pas comment ça va se finir, mais qui a quand même décidé comment ça va se finir. C'est le jeu qui dit à tout le monde, sur un pied d'égalité, ouais. Attention, ça va se finir comme ça, et comme ça, c'est mal. Enfin, ça, voilà, ça va pas bien se finir. À la fin, vous allez, voilà, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez, mais à la fin, ça va mal se finir. Et c'est une contrainte qui est donnée à tout le monde. C'est pas le MJ qui fait son truc dans son coin. Donc ça change des choses, et pour le coup, ça fixe le cadre tragique. À savoir, on sait que ça va mal se terminer. Ce qui nous intéresse, c'est de découvrir comment. Et quel cheminement va nous amener jusque là-bas et comment nos décisions vont nourrir parfois des prophéties d'autoréalisatrices. Enfin voilà, comment au contraire on n'arrivera pas à échapper malgré tous nos meilleurs efforts à ce destin qui nous attend. Et là, fondamentalement, on est dans la tragédie. Il y a une transparence de ça. Alors, je m'avancerai pas pour Vivi. Moi, je sais que pour le coup, des jeux sans meneur, j'en ai quand même fait quelques-uns. Là, il y avait un truc qui marchait bien pour moi en jeu avec meneur, de placer les joueuses dans une position un peu isolée. À nouveau, dans notre crépuscule, on joue des personnes qui ont l'influence de grands dirigeants politiques à l'échelle du monde magique. Donc, tout ce qui se passe mal autour, elles doivent prendre des décisions, mais en même temps, elles sont à part. Elles sont à part, et de fait, le dispositif avec meneur fonctionne bien dans ce cadre-là. On ne produit pas un récit choral avec des individus isolés qui vont vivre leur vie à droite à gauche, ou en tout cas pas isolés mais interconnectés, mais qui font leur vie dans un espace de maillage. On a vraiment ces quelques individus qui se retrouvent à devoir gérer, y compris avec des désaccords, mais à devoir gérer des situations ingérables. Enfin, où au contraire, à être invité à participer à des choses très belles et très douces est très mélancolique, mais néanmoins non conflictuel. Mais en tout cas, ça les positionne à un endroit particulier parce que ce sont des individus particuliers. Et je voulais que ce soit des individus particuliers parce que face à une situation qui est absolument tragique, dire vous allez jouer des gens qui ont beaucoup de pouvoir, mais qui à cet endroit-là n'en ont pas. Et c'est parce que les gens qui vous entourent savent que vous avez beaucoup de pouvoir qu'ils se tournent vers vous pour vous demander des réponses et qui vous demande d'intervenir, ça produisait quelque chose en termes de récit. Je sais pas si c'est très très clair comme explication, mais en tout cas il y avait vraiment ce truc de c'est pas exactement la parabole du jeu, néanmoins il y a ce truc de vous jouez des dirigeants politiques face à la catastrophe, quoi, et avec toutes les questions difficiles que ça confronte. Bah voilà, je voulais être à cet endroit là et ouais, le dispositif FMJ paraît c'est plus judicieux pour ça.
Dans le cas de Libreté, si on prend la présence d'un MJ, je pense qu'elle s'explique de toute façon par l'absence de mécanique de fin automatique. C'est-à-dire que il faut à un moment, comme la proposition de Libreté, c'est quand même d'être dans son personnage, en tout cas pour les joueuses, il faut que, même si la fin est annoncée dès le départ, donc quelque part elle échappe aussi au pouvoir de maître, mince, comment j'avais appelé ça, l'adversaire, voilà, c'est le problème de changer de nom à chaque jeu, je finis par oublier lesquels. Du coup, il y a quand même, quelque part, il fallait quand même qu'il y ait un sentiment un peu extérieur pour pas non plus que ce soit aux joueuses elles-mêmes de s'imposer la mort de leur personnage. J'aurais trouvé ça un petit peu, je sais pas, ça aurait cassé un petit peu quelque part la proposition de, bon, on va dire d'immersion, faute d'un meilleur terme, quoi, dans le perso. Quelque part, ça participe aussi d'une espèce d'écosystème plus global, puisque dans mes jeux, bah, on incarne des enfants, y compris dans Explorateur de Bruine, qui propose quand même un mode héroïque, mais c'est un mode héroïque où il y a quand même dès le départ acté l'idée que parce que t'es un enfant, t'es censé quand même intégrer la possibilité que tu meurs très vite. Enfin, il y a un peu ça, c'est un peu le message qui est envoyé, t'es pas un barbare d'un mètre 80 surmusclé ou blindé d'objets magiques, quoi. Donc c'est pas choquant, enfin c'est choquant en un sens, mais c'est pas surprenant qu'un enfant qui part entouré de monstres, enfin c'est pas pour rien d'ailleurs que la plupart des parties que j'ai fait jouer de Explorateur, les gens partent avant la fin de la bruine parce qu'ils savent que s'ils vont un peu plus loin, les chances de mourir sont vraiment trop grandes, et ils disent mais en fait non. Donc il y a vraiment cet aspect là qui domine et qui va quelque part, on porte tous les stigmates et les blessures héritées du jeu de rôle tradi, qui étaient de ces promesses de super-héroïsme, de toute puissance, de etc., où les joueurs en gros au fur et à mesure presque on en était limite à être là pour les faire briller en permanence, ce qui peut être chouette de temps en temps, mais quand ça devient le genre du jeu de rôle dans sa totalité, ça devenait un petit peu problématique. Et quelque part, ben voilà, là c'est des jeux qui disent clairement, ben c'est pas comme ça que ça va arriver, la fin va être dramatique. Et en même temps, je me souviens aussi, en tant que meneuse de jeu, il y avait la promesse que, ben à la fin, tu vas trouver le coupable. À la fin, tu vas affronter le grand méchant dans un duel épique qui va être passionnant et tu vas le battre, etc. Et j'avais même des réflexions de joueuses qui était un peu bon, bah aujourd'hui on n'a pas fini le scénar, est-ce que ça valait vraiment le coup de jouer. Il y avait vraiment ce côté, il fallait avancer dans la progression du scénar, il fallait gagner des XP, il fallait résoudre le truc, il fallait trouver l'objet magique pour avoir vraiment l'impression d'avoir joué pour quelque chose. Là, quelque part, on court-circuite ça en un sens. On leur dit bah non, la fin elle est pas souhaitable, enfin elle est pas agréable. Ça peut être un moment impressionnant, mémorable, tout ça, mais c'est pas un moment de toute puissance, c'est l'inverse. Et donc est-ce que ce serait pas intéressant, du coup, de s'intéresser davantage, à ce que vous faites maintenant, de comment vous arrivez à cette fin, comment vous vivez avant, et de se reconcentrer sur ce moment-là. Et quelque part, j'avais pas parlé de Perdu sous la pluie, où effectivement, là, c'est les mécaniques de jeu qui disent clairement, vous avez 10 jetons, et quand tous les joueurs sauf un ont dépensé leurs jetons, la partie se termine, et tout le monde est mort, en quelque sorte, sauf la personne qui a encore des jetons. Il y avait aussi ce côté-là, et il y a même des gens qui refusaient d'être la personne qui survivait, pour des raisons morales, qui avaient joué la brute pendant toute la partie à faire perdre des jetons et qui à la fin se sacrifiaient parce que juste, elles avaient pas envie d'être cette personne-là qui survivait sur le dos des autres, quoi, quelque part. Et voilà, j'ai l'impression qu'on remet un peu plus le focus finalement sur la vie, paradoxalement, en mettant un tel projecteur sur la mort, quoi.
Ouais, le fait que la fin soit déjà décidée, c'est le reste qu'il faut jouer, quoi. Et c'est ça qui est important, c'est ce qu'il y a avant, et on n'est pas des acteurs qui meurent sur scène, quoi. Alors, je vais faire un parallèle un peu hasardeux, encore une fois, comme tout à l'heure j'ai fait avec le MJ, mais le destin, c'est un peu le contraire du hasard, et il y a des jeux tragique qui fonctionne avec le moins de hasard possible, pas complètement, mais je pense à Polaris de P.H. Lee, qui évacue dans un cas qui arrive une fois sur 25 la possibilité de peut-être lancer un dé, mais globalement on joue sans avoir besoin de lancer ce dé, et pour le coup il y a une fin qui arrive de façon très très mécanique avec des scores qui, quand ils arrivent au-delà d'un certain point, le personnage peut mourir, peut passer chez les démons, devenir quelqu'un d'autre, etc. Mais finalement, le hasard là-dedans a vraiment très très peu de rôle. Et j'aimerais savoir, dans les jeux dont on parle là, que ça soit Notre Crépuscule, Libreté ou Perdu sous la pluie, le rôle du hasard dedans. Enfin, y a du hasard quand même dedans ? Et quel est le rôle que vous lui donnez dans cette progression fatidique ?
Moi, ça va être surtout peut-être Perdu sous la pluie qui va m'intéresser là, parce que finalement, il n'y a pas de hasard tel qu'on le définit généralement en jeu de rôle, pas de jet de dés, pas de tirage de cartes. C'est vraiment tout le monde a 10 jetons, et puis quand c'est votre tour, tous les autres joueurs peuvent vous enlever un jeton. Voilà, en gros, ça c'est la base. Et après, va y avoir d'abord la question de est-ce que tout le monde va en enlever ? En général, c'est plutôt le cas. Est-ce que on va actionner les deux autres possibilités qui sont de sacrifier un de ses jetons pour aider quelqu'un, ou même la personne qui est agressée peut sacrifier un de ses jetons pour en enlever un à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire rendre les coups en quelque sorte, mais s'enfoncer davantage. Et j'ai le sentiment, alors je m'en rendais pas forcément compte quand j'avais créé évidemment ces mécaniques-là, mais c'est vraiment ce qui fait tout l'intérêt du jeu, quelque part, d'avoir ces outils qui permettent de s'extraire. Et en un sens, c'est ça, c'est des choix, en fait, finalement, là. Des choix de joueuses qui vont ou non décider de la manière dont leur personnage va paraître, sachant que de toute façon, la mécanique ne changera pas, elle, puisque à zéro jeton, on s'en va quand même, et le jeu ne s'arrêtera que quand il y aura plus qu'une personne en lice. Après, évidemment, il y a la possibilité de ne pas retirer de jetons, et donc on pourrait imaginer des enfants qui continuent éternellement dans les limbes, sans jamais se faire de mal, sans jamais... Et c'est une possibilité, après tout, ça reste mécaniquement tout à fait valable, en fait, et puis quelque part ça fait partie j'ai pas envie de dire du message du jeu, mais en tout cas ça va dans sa logique, quoi. Effectivement, cette dynamique-là, c'est vraiment celle du choix, du coup, plus que du hasard, mais d'un choix contraint, quoi. Très fortement contraint, même, on pourrait dire.
Moi, il y a du hasard. Là aussi, après plusieurs jeux où il n'y en avait pas tellement, il y a du hasard à plusieurs titres. En premier lieu, peut-être le plus facile à évacuer, il y a des outils, il y a beaucoup de tables aléatoires, parce que c'est des outils que j'utilise depuis longtemps et que je trouve assez performants quand ils sont bien faits, pour donner des idées rapidement, prendre des décisions rapidement dans le cadre d'intrigues ou de propositions d'univers, ou en tout cas de propositions de situation. Donc il y a tout ce hasard-là, mais qui est à disposition plutôt du meneur que des joueuses, pour le coup, pour avoir des outils de prise de décision rapide et aléatoire, donc potentiellement un peu surprenante, pour proposer de la narration. Et puis après, il y a de l'aléa aussi, comme je le disais, côté joueuse, avec des tirages qui vont ouvrir sur une chose. Ça, c'est un espèce d'aléa un peu contrôlé, c'est-à-dire que, à nouveau, quand un personnage de sorcière dit « je fais ça », elle fait ça, l'aléa va déterminer à quel point elle pourra se prémunir d'un certain nombre de conséquences peu enviables, sachant que charge ensuite est donnée au meneur de décider si parmi les conséquences qui n'ont pas été écartées, il y en a qui s'appliquent et combien s'appliquent. Donc ça reste, tout ça reste assez contrôlé, et on reste dans un jeu qui est avant tout narratif, mais cet outil permet aux joueuses de dire « moi, je ne veux pas qu'il m'arrive ça ». Le reste, tu peux y aller, mais ça, vraiment, j'ai pas très envie. Qui a peu différent de façon qu'on peut avoir de procéder ailleurs, quoi. Donc voilà. Pareil sur la création de personnages, il y a plein d'outils aussi aléatoires pour proposer des profils surprenants. Parce que l'idée, c'est aussi d'avoir quand même un univers qui est de l'urban fantasy, mais sort un peu des sentiers battus de l'urban fantasy, quoi. Dans les références esthétiques, il y a du Guillermo del Toro, par exemple. Et avec ce truc de, bah, vraiment du merveilleux. Vraiment du merveilleux de, on ne s'attendait pas à voir les choses comme ça. Ça résonne à la fois avec notre imaginaire et en même temps, on est un peu pris au dépourvu. Parce que je pense que si on veut rendre vraiment tragique la disparition d'un univers, ça marche mieux si c'est un très très bel univers.
Je trouvais justement que, en lisant Notre Crépuscule et en lisant tes différents jeux, Vivi, dans le Rainiverse, il y a à chaque fois des partis pris esthétiques qui sont forts, enfin il y a une identité des univers qui sont construits, qui sont très forts, et justement c'est ça, c'est, on arrive à construire, alors à chaque fois c'est personnalisé par la table, c'est pas juste le bouquin qui est un gros bouquin de lore avec plein de choses dedans, c'est des choses qui sont amenées par le bouquin mais transformées par la table, et bah voilà, c'est exactement ce que tu dis, c'est... Avoir construit un univers attachant, intéressant, etc., c'est ça qui le rend vraiment terrible à d'assister à sa fin, quoi. C'était des choses qui étaient effectivement conscients dans le design à chaque fois, il faut que cet univers, on s'y attache, il faut qu'il ait une profondeur, et comment est-ce qu'on y arrive dans un cas comme dans l'autre?
Je vais faire une confession qui va faire tomber tout le monde de sa chaise, je pense, hein, mais pour moi, il y a beaucoup de politique dans Notre Crépuscule.
Ah bon ? Non !
Et il y a une parabole à laquelle je tiens beaucoup. Enfin, le jeu est une parabole. Je le verbalise parce que je ne suis pas persuadé que, au premier abord, on l'entende comme moi je l'entends. À travers ce jeu-là, je traite d'une question qui m'affecte, qui est l'effondrement de la biodiversité, et pas d'un point de vue statistique, d'un point de vue sensible. Il y a tout ce monde merveilleux, improbable, inconnu, que les humains ignorent, globalement, qui va disparaître, et ça ne changera rien à la vie des humains. Rien de rien de rien. C'est ça le propos du jeu, enfin c'est ce qui se passe dans le jeu, c'est qu'à la fin, les créatures magiques, elles vont disparaître, elles savent qu'elles vont disparaître, tout est en train de tourner au vinaigre, et puis les humains, ils vont continuer leur vie. Voilà, ce jeu-là parle pas de l'effondrement climatique et de comment ça va affecter l'humanité dans 1, 2, 3, 5, 10, 15 ans. Je crois que j'ai plus envie de parler de toutes ces créatures et végétaux, tous ces êtres vivants sublimes, étranges, bizarres, qu'on ne connaîtra jamais parce qu'ils existent déjà plus. Ou de ceux où on sait qu'il reste moins de 10 individus encore vivants de telle ou telle espèce, que globalement c'est foutu pour eux. Et que on peut se permettre de pas y penser parce que ça nous sert à rien. Et que, en fait, le fait d'exister dans sa singularité pour une espèce vivante ne semble pas dans notre monde être une raison suffisante pour que nous humains mettions tout en œuvre pour que ça continue. Ou en tout cas, mettons tout en œuvre pour ne pas provoquer l'arrêt de l'existence de telle ou telle espèce vivante. Comme je le dis, comme la beauté, on ne sait pas la dénombrer dans notre structure sociale, ça ne compte pas. Et moi, ça me terrifie, et ça me rend très très triste. Donc oui, il faut des très très beaux univers pour que soit terrible de les voir disparaître, parce qu'en fait, on est dans un très très bel univers, un très très bel univers de vivant, et on est tellement entraîné à ne pas le regarder qu'on ne se rend pas compte qu'il disparaît. Et que moi j'ai envie qu'on regarde où c'est beau. Juste, c'est beau. Ce serait bien que ça continue à exister, juste parce que c'est beau.
Je trouve ça super émouvant en fait ce que tu dis. Mais et j'arrive pas à savoir si je suis quelque part dans une démarche presque inversée, ou au contraire si c'est la même chose au final. Moi j'ai l'impression de plus parler... En fait, quelque part perdu sous la pluie... Bon, avant il y avait les Errants d'Ukiyo qui parlaient déjà de personnes fragiles et blessées et condamnées en un sens, et c'est quelque chose qui me fascine depuis très longtemps, peut-être, je sais pas, peut-être sans doute par une forme d'égocentrisme aussi, parce que peut-être que je me perçois comme ça, mais en même temps je le vois chez d'autres personnes, et je suis vraiment fascinée et amoureuse en un sens des personnes fragiles et je vais dire avec des failles, enfin pas faillible mais failli failliblé quelque part. Et typiquement Perdu sous la pluie, il avait émergé d'une fusion entre quelque part mon impression de pas grandir comme il aurait fallu, de pas savoir ce que c'est que de devenir adulte, de d'être encore une personne avec un enfant à l'intérieur qui comprend toujours pas trop ce qu'il aurait fallu faire pour que ça marche, et en plus à l'époque d'être dans une relation avec une personne extrêmement faillie aussi quelque part, j'ai envie de dire, et dont je sentais toute la ouais, toute la fragilité, toute la douleur et tout ça, et de ces constats et de l'envie de parler de ça, de l'envie de, eh ben, est né un univers qui comporte ces éléments-là, qui parle d'enfants, donc de personnes qui sont impuissantes en un sens, qui essayent, qui arrivent quelque part un peu, mais qui n'arriveront pas juste à solutionner tous leurs problèmes, quoi. Ça, déjà, c'est déjà incroyable d'arriver à survivre, à en résoudre un peu et de continuer. On peut pas leur demander non plus de changer les choses complètement. Et du coup, et en face d'elles, elles ont des créatures qui se sont développées aussi au fur et à mesure de la gamme, qui sont les sirènes de l'averse, qui sont vouées à disparaître à la première accalmie, qui sont pas des êtres doués de raison spécialement, mais qui gagnent une raison à vampiriser celle des autres et aimeraient être comme eux mais ne le seront jamais, et qui ont des émotions mais ne les comprennent pas et sont terriblement comment dire assoiffés ou affaimés de ça chez les autres, mais en même temps elles les détruisent en les absorbant, quoi, quelque part. Et voilà, il y a tout ce truc là-dessus. Alors ça se mélange, c'est du coup extrêmement difficile de dire c'est ça ou c'est cet autre élément, mais c'est quelque part la dramaturgie, cet aspect-là, quoi, est né aussi de la vision de ces créatures, quoi, qui devient une vision du monde, parce qu'on propose une vision du monde dans le jeu de rôle. On va pas évidemment prétendre proposer le monde dans toute sa complexité, mais on crée un monde qui est une manifestation quelque part de cet aspect, on va dire, de l'humanité et tel qu'on la voit, quoi.
Et alors du coup, à qui sont destinés vos jeux? Dans quelle main est-ce que vous aimeriez que ça aille? À qui est-ce que vous pensez que ça va parler? Ou à qui ne devrait pas? Ou pensez qu'il vaudrait mieux pas que ces personnes-là aient ce jeu en main, quoi?
Mes
parents.
Alors moi, en général, les jeunes parents ne veulent pas jouer à mes jeux, effectivement, parce que ça leur ferait... Bon, après, tant pis pour eux. Moi, j'ai une fille, ça va, je la torture pas. Après, je mettrai pas forcément... J'aurais pas envie de mettre ça... Alors, je sais pas, est-ce que j'aurais envie de mettre ça dans les mains d'enfants? Enfin, déjà, c'est pas à moi de le mettre dans les mains d'enfants, parce que sinon ça devient vraiment glou, mais je sais pas, vraiment, si ça pouvait aider, parce que je sais qu'il y a au moins une personne qui utilise Libreté, par exemple, avec des jeunes, pour les aider à justement verbaliser et tout, leurs émotions, et voir comment, enfin, en quelque sorte, comme un outil de verbalisation aussi, de cristallisation, de travail sur les émotions. Moi, j'oserais pas le faire parce que je suis pas formé pour ça et j'aurais trop peur de faire du mal, quoi. Mais idéalement, on va dire, si ça pouvait ne pas poser de problème, effectivement, j'aurais envie que ça touche le public que je viens de décrire, quoi. Des personnes qui ont l'impression d'être faillibles et d'être les seules dans un univers à l'être, et de trouver quelque part dans l'écriture de ce que j'ai fait et dans d'autres personnes, ben un écho, et se dire ben voilà, on est peut-être pas exactement pareil, mais on a quand même des fragilités communes, en tout cas, ou au moins une acceptation des fragilités communes, quoi. Ça pourrait être ça. Après, si ça pouvait tomber entre les mains de gens qui croient que tout va bien et que leur existence est parfaite et qu'ils se remettent jamais en question, ben ça pourrait peut-être servir un peu, mais j'y crois pas énormément.
Et moi, je vais me faire taper sur les doigts par mon éditrice si je réponds autre chose que à tout le monde. Néanmoins, c'est marrant. Néanmoins, avant le coup, on en discutait. Là, je le voyais à propos d'autres jeux, notamment Tiste et Bois Dormant, et aussi de la réaction un peu des gens à notre crépuscule. Il y a un truc un peu genré. J'ai l'impression que c'était vrai aussi un peu pour Bois Dormant. J'ai l'impression que pour notre crépuscule, ça peut être vraiment assez manifeste. Je crois que c'est un jeu qui parle potentiellement pas mal aux meufs et aux personnes queer. Ça me surprend pas tellement, il y a un truc genré. La power fantasy, c'est quand même un trope assez masculin. Et je crois qu'il y a un public qui peut être un public un peu différent, qui va pas forcément chercher autant cette espèce de fantasme de puissance héroïque qui surmonte toute adversité en la détruisant avec sa grosse épée, mais au contraire qui va se confronter aux émotions et au ok, qu'est-ce qu'on fait ensemble. Donc, je pense, enfin ça me surprendrait pas qu'il y ait un truc un peu genré là-dedans. Et après tout, est-on vraiment étonné? Moi j'espère que c'est un jeu qui peut donner envie aux gens qui aiment l'urban fantasy. Enfin, moi je trouve que c'est l'urban fantasy, le merveilleux, c'est un canon esthétique qui me parle depuis hyper longtemps, qui me touche beaucoup à titre personnel. Et je pense qu'il y a de quoi faire, et certes, c'est un petit peu différent du monde des ténèbres, mais en tout cas, c'est des espaces d'exploration. Je trouve qu'on cette espèce de truc incroyable de d'être à la lisière entre la familiarité de notre quotidien et ouais, cette surprise constante de ce qui se trouve dans les ombres du coin de la rue. Enfin, moi, je trouve ça me passionne.
Alors, bien transmettre un jeu, c'est compliqué. Et du coup, est-ce que vous avez une trouvaille de présentation, d'ergonomie, de la façon dont le jeu est, dont l'objet du jeu est fait, ou dont les règles sont agencées, je ne sais pas, qui permet de mieux prendre en main, de mieux transmettre le jeu tel que vous l'avez écrit?
Pour notre crépuscule, on fait un index inspiré des bouquins de cuisine. Je m'explique.
Je veux bien.
Dans les bouquins de cuisine, t'as ça, tu sais, tu peux avoir une liste des ingrédients et tu vas avoir tous les numéros de page des recettes qui mentionnent cet ingrédient-là, qui sont à la fin en index. Et éventuellement, tu peux même avoir des fois marqué en gras une page où il est particulièrement détaillé. On a abordé ça pour les ingrédients d'univers du jeu qui s'appellent dedans les fragments, qui sont en gros des personnages principaux, des factions, des objets, des lieux, qui sont potentiellement très interconnectés les uns avec les autres, donc qui sont mentionnés à plein d'endroits, mais pour faciliter la navigation, effectivement, on a la liste complète avec en gras l'endroit où on les trouve vraiment en description totale, et ensuite tous les endroits où ils sont mentionnés. Ce qui permet, si on se réfère à un élément, d'aller chercher tous les autres ou d'aller voir où sont les interconnexions assez facilement. On aurait fait une version PDF, ce serait évidemment des liens hypertextes, mais je pense que l'index serait quand même un vrai plus de toute façon. Donc dans ce cadre précis, vu comment la structure d'univers du jeu est micellaire, ça marche bien ce truc de... Bah ouais, dans une espèce d'index en rhizome comme ça, là, ça fonctionne bien.
J'y réfléchissais, je me dis, pour relier encore une fois avec la thématique, je pense à Perdu sous la pluie et à Libreté, je me rends compte maintenant qu'ils sont un peu construits sur un même mode, même si Perdu sous la pluie, on va dire, souffre éventuellement d'illustrations libres de droit, pas au sens où elle serait pas chouette, mais où du coup ça limitait les choix possibles, mais j'ai l'impression que ces deux jeux sont construits sur un peu le même mode en termes d'organisation et qui correspond un peu à cette idée de fin, c'est-à-dire que on va commencer par quelque part créer les personnages. Alors Libreté va commencer d'abord par créer la communauté comme si elle naissait, ensuite on arrive à la création de personnages, on passe à la description justement des règles ou de l'adversité, donc les dangers qui vont être affrontés et tout, et on termine par un épilogue qui est comment la fin, qu'est-ce qui se passe à la fin. Et il y a comme ça en fait finalement presque les étapes nécessaire, et ça se retrouve aussi dans les illustrations notamment, puisque Libreté de souvenir, hein, je me souviens plus exactement de chaque, mais les illustrations montrent justement comme ça une évolution vers un moment où la dernière illustration par exemple c'est une ville vide et en ruine. Perdu sous la pluie, il me semble que j'avais trouvé une illustration d'une ville avec la lune au-dessus, et il y a ce côté plus de d'être vivant ni rien, et il y a comme ça, voilà, ça c'est une espèce de progression en fait dans la, comment dire, dans la structure même du livre, qui mime en quelque sorte, on va dire, la structure d'une partie ou d'une chronique ou peu importe quoi. Il y a ça qui mène vers là de manière assez logique, quoi.
Moi, j'ai remarqué un point commun entre les deux jeux, c'est l'utilisation de phrases à trous ou de paragraphes à trous. Alors, est-ce qu'il y en a une qui l'est piquée à l'autre, ou est-ce que c'est un emprunt inconscient, est-ce que c'est quelque chose de qui va bien avec cette thématique de la fin, d'avoir justement quelque chose qui est prédéterminé, dans lequel on n'a plus qu'à mettre les éléments qui nous conviennent.
Alors moi, je te dirais que j'ai tout piqué à Vivi. Et en même temps, j'avais des trucs comme ça... Attends. Mais j'avais des trucs un peu comme ça dans Summer Camp. Et je suis incapable de me souvenir à quel point j'ai écrit Summer Camp avant ou après le Libre-Été. Parce que tout ça commence à remonter un petit peu. Nous ne rajeunissons pas, jeune public. Mais en tout cas... Alors moi, je sais que j'ai réutilisé pour les textes à trous l'endroit où ils sont dans Bois Dormant. J'ai repris la méthode que j'avais mise en place dans Summer Camp, à savoir c'est pour les intrigues, en utilisant... En gros, des boîtes à outils, d'items disponibles, donc ce que j'appelle les fragments, donc des personnages, des lieux pour l'utiliser. Là où moi j'ai piqué des trucs à Vivi, c'était sur Bois Dormant, où le setup d'univers, vraiment le world building, fonctionnait sur un texte à trous qu'on remplit. Et là, pour le coup, j'avais vraiment repris, et je suis bien en peine de dire si c'est la même origine pour Summer Camp, mais je crois pas. Je crois que pour le coup, ça s'est fait en parallèle et de façon non consciente. Mais je l'avais pas pensé comme des textes à trous quand je l'ai fait pour Summer Camp, même si de facto, c'en est effectivement.
Et bah du coup, moi j'arrive aussi à la fin, mais j'ai quand même une dernière question. Je vous préviens, hein, comme ça, vous pouvez griller vos dernières cartouches. Donc le jeu de rôle, c'est une conversation, dit l'autre. Et moi, j'aime bien dire que la conception de jeu de rôle aussi, c'est une conversation. Et du coup, à quel jeu répondent respectivement notre crépuscule, Libre-Été, ou à quel jeu avez-vous envie de répondre maintenant ?
Je sais que ce qui était marrant, c'est que Perdu sous la pluie répondait à Perfect Unrevised de Avery Alder, en un sens, alors c'était pas une réponse, c'était une reprise de la mécanique de jetons qui avait évolué ensuite, et Libreté répondait à Monster Heart de la même personne, donc il y avait quand même il y avait quand même deux fois Avery Alder dans l'histoire, quoi, parce que parce qu'il y avait des trucs que je trouvais très cool et en même temps j'étais pas convaincu par plein d'autres choses, et du coup je voulais apporter un petit peu ma propre réponse, quoi. Et évidemment, après, De Billets d'Acier répondait Bliss Stage, pareil pour d'autres raisons. Après c'était je me souviens, Perdu sous la pluie, typiquement c'était l'idée de pouvoir utiliser des jetons tout en parlant pour éviter d'interrompre la narration, de jeter des dés, de faire des calculs, des trucs, juste de pouvoir associer un geste en un sens à une description, donc de donner un poids mécanique parallèle, sans interruption, sans alternance, mais vraiment simultané. Et c'est quelque chose dont on a pas mal parlé sur Libre-Été aussi, ce geste de j'en ai rien à faire de tes moqueries, ça me touche pas du tout, et on se défausse on prend un jeton pour montrer qu'en vrai à l'intérieur on le vit très très mal. C'était comme il y a comme ça cette espèce de, ça permet une espèce de, pas de double langage au sens où on cacherait un truc à l'autre, mais de double langage au sens où on dit deux choses en même temps et tout en les signifiant quand même en même temps à l'autre, quoi. Voilà, bon, je pense que c'est à peu près les réponses de ces jeux-là.
Mais il y a plusieurs réponses à cette question. Alors, le jeu qui a initié le cheminement, qui a amené à notre crépuscule, c'est Before the Spire Falls, et une campagne que j'ai animée de Before the Spire Falls notamment. Originellement, parce que ça c'est vraiment un amalgame de plein de trucs, quoi. Originellement, en fait, moi j'ai une grande passion pour Tranchant et Tracon de Kobayashi depuis longtemps. Et originellement, en fait, j'étais parti pour faire un skin Urban Fantasy de Tranchant et Tracon. C'était ça le projet initial. Et puis j'ai dérapé. Donc voilà, mais c'était ça le projet initial, c'était de dire je vais faire un skin Urban Fantasy de Tranchant et Tracon. Je dirais pas que c'est un échec, mais ça s'est pas passé comme prévu en tout cas. Il y a évidemment les pierres vives qui sont un héritage direct de Tyst, parce que en fait j'avais développé cet outil-là pour le jeu de rôle, le jeu de l'éveillé dans Tyst, et il me plaisait trop et j'y voyais trop de potentialités à exploiter pour juste le laisser comme ça dans un petit coin. Donc,
tu peux peut-être expliquer ce que c'est que les pierres vives.
Alors les pierres vives, c'est 12 pierres, 6 blanches, 6 noires, qui comportent 6 symboles, donc il y a un symbole dans chaque couleur, fabriqué maison. Et voilà, c'est mon outil d'aléatoire. qui me sert pour plein de choses, que ce soit sur des tirages de trois pierres, majorité de blanche, majorité de noire, totalité de blanche, totalité de noire, de tirer des symboles, qu'est-ce que ça fait de tirer le symbole en blanc, en noir, c'est un peu différent d'un dé, c'est un peu différent de cartes, même si je pense que ça peut se faire avec un espèce de bidouillage de jeu de cartes maison, mais en tout cas ça ouvre des potentialités, et puis en plus bah, on joue des sorcières, il y a un côté un peu mystique de on tire des runes quand même, c'est marrant, et c'est un outil qui permet, je trouve, enfin, il y a plein de façons d'utiliser cet outil en termes de production d'aléatoire, et ça me plaît. Et puis aussi, si je me réfère à ma propre ludographie, je rôle d'artiste pour le pur usage technique, en fait, je pense que je le clôt, ça n'est pas une promesse, mais je pense que je le clôt, un triptyque que j'ai ouvert avec Bois Dormant, que j'ai poursuivi avec l'Insurrection, qui... je pense, est un truc assez personnel dans les grandes thématiques que ça véhicule derrière, dans l'impulsion qui m'a donné envie de raconter des histoires de cette façon-là. Il y a un grand cri d'espoir et un grand cri d'envie de qu'est-ce qu'on peut raconter comme histoire avec Bois Dormant. Il y a à la fois de la colère et en même temps une forme d'interrogation avec l'insurrection, une envie que les choses changent, en même temps de... c'est compliqué en fait ces changements-là, et c'est beaucoup d'interactions de plein d'éléments ensemble qui bougent très très vite et de façon pas forcément très prévisible. Et puis il y a évidemment du deuil, de la mélancolie, de la tristesse, il y a de la solastalgie avec Bois Dormant, et moi toutes ces émotions-là, je sais qu'elles coexistent très fort en moi depuis très très longtemps. C'est encore plus vrai depuis 2017-2018, je dirais. Depuis aussi que j'ai remis les pieds dans le militantisme, je me suis raccroché à mes racines écolo et anar, et que tout ça coexiste. Ouais, tout ça coexiste vraiment très très fort, quoi. Y a pas l'un qui prend la place de l'autre, ou je voudrais vraiment pas que les gens prennent ça comme une histoire de voyage avec quelqu'un qui a de l'espoir au début, puis après qui est en colère, et à la fin qui est abattu. Non, non, les trois sont là depuis le début, en fait. J'avais besoin de le raconter dans cet ordre-là, mais pour moi, il y a une vraie connexion entre ces trois jeux, même si ils n'ont pas les mêmes dispositifs, ils racontent pas les mêmes histoires, ou pas aux mêmes endroits, pas dans le même univers, mais c'est pour ça qu'il y a des... j'ai écrit des lettres aux lectrices à la fin de ces trois jeux, pour dire, bon, bah voilà de quoi je parle, voilà pourquoi j'ai écrit ce jeu-là, parce que... c'est dans des trucs, alors c'est pas mes seuls jeux où je vais chercher des choses un peu personnelles, mais ils sont très nourris de mon rapport au monde, quoi.
Ce qui m'étonne presque, c'est la façon dont tu mets ces trois jeux-là à part. Tu y mets pas Artiste, tu y mets pas La Fine Fleur, tu y mets pas Les Couleurs de l'Amitié, alors que c'est des jeux, il me semble que t'as écrit... on pourrait intercaler certains de ces jeux au milieu des trois jeux dont tu parles, mais tu les mets à part pour autant.
Oui, alors Artiste, c'est une commande. Les Couleurs de l'Amitié, ça va chercher une autre réflexion ailleurs sur le... voilà, bah, l'amitié et le temps qui passe, quoi. Mais non, ces trois-là, j'y mets vraiment... enfin, en tout cas, ils sont mus par les émotions qui me structurent politiquement. Je sais pas comment le formuler autrement que ça. Je sais pas si c'est très clair, mais pour moi, il y a une vraie filiation entre les trois qui est un peu à part des autres, qui sont pas mieux ou moins bien, hein. C'est juste que vraiment, il y a un truc de... je serais étonné que si un des trois jeux vous parle, les deux autres vous laissent complètement indifférents. Je pense que ils touchent au même endroit de mon intériorité, en tout cas, et que Les Couleurs de l'Amitié, les quatre jeux touchent à mon intériorité, mais à d'autres endroits de mon intériorité, et les quatre vont bien ensemble. Enfin voilà, c'est pas... j'ai l'impression de pas les avoir écrits avec les mêmes organes, tu vois.
Eh bien, je crois qu'on arrive à la fin de la fin. Oui, il fallait que je la fasse à la fin. Ben, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions, pas forcément très fines des fois, mais mais voilà, j'étais très content de vous avoir et de pouvoir discuter de ce thème avec vous. Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
We'll be right back.
C'est moi qui me cache. Dans la tête, on a eu le temps d'aller me chercher. Dans leur hypothèse. C'est une vieille histoire.